RFI.
La danse des mots, Yvan Amar.
Bonjour, la danse des mots à Avignon pour la première fois de la semaine, puisque nous allons y rester jusqu'à vendredi prochain, avec chaque jour deux propositions, deux éclats de spectacles différents, soit du in, soit du off, c'est-à-dire de la programmation, disons, officielle et officieuse d'Avignon, qui aujourd'hui se situe avec une sorte de fil rouge, de ligne directrice autour des droits des minorités sexuelles, des LGBT. Et aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on entende parler de deux spectacles qui sont situé un peu aux deux extrémités de cet arc. Dans la deuxième partie de l'émission, nous parlerons avec Nathalie Joly qui présente un café Polisson tous les jours à 18h à l'espace Roseau, à l'un des espaces Roseau, puisque deux lieux possèdent ce même nom. Celui-ci est rue Pétramal et permet d'entendre des chansons réalistes, des paroles de femmes prostituées à la fin du 19e ou au début du 20e siècle. Et puis tout de suite, un spectacle d'Huin, Monsieur et Madame et le reste du monde, dont nous parlera son metteur en scène, David Bobet.
Mesdames, messieurs et le reste du monde, bienvenue dans le jardin Sécano.
Eh bien, nous venons d'entendre donc cette petite musique qui évoque à la fois la SNCF, les trains et puis le jingle traditionnel des spectacles du In d'Avignon. Bonjour David Bobet.
Bonjour.
Vous présentez donc tous les jours, mesdames et messieurs, et le reste du monde, un spectacle gratuit donc à midi au jardin Sécano. Alors, qu'est-ce que c'est que ce spectacle ? C'est un spectacle, mais d'un genre un petit peu particulier. Est-ce que c'est vraiment une pièce de théâtre ? C'est pas exactement une pièce.
Bah, c'est un rendez-vous quotidien qui tous les jours change et s'invente quotidiennement. C'est une formule inventée par l'équipe d'Olivier Py et lui-même qui est assez jolie, c'est-à-dire amener le théâtre, la culture dans des lieux non dédiés, dans ce jardin, proposer avec la gratuité à tous et à toutes. Et c'est un travail qui est fait avec des amateurs, avec des professionnels, avec une école de théâtre, là en l'occurrence l'école de Saint-Étienne, et quelques invités, quelques guests, quelques stars qui passent nous voir. Il y a quelque chose d'extrêmement démocratique et c'est très politique déjà dès la forme, puisque l'idée est de par le plaisir du théâtre s'emparer d'une thématique sociétale importante et brûlante d'actualité.
Alors, c'est présenté comme un feuilleton. Pourquoi un feuilleton justement, David Bobet ?
C'est un peu une formule. La formule a été inventée par Alain Badiou et c'était l'idée de donner un rendez-vous quotidien aux gens et de pouvoir comme ça, dans une façon puzzle, pouvoir recouvrir tout le territoire d'une thématique. La République quand c'était Alain Badiou, l'histoire du Festival d'Avignon quand c'était Thomas Joly, quand c'était Anne Liégeois et Christiane Taubira, il s'agissait des droits humains. Et aujourd'hui, c'est la question du genre qui est une thématique qui est le fil rouge de ce festival d'Avignon, qui n'est pas une thématique posturale ou volontariste d'Olivier Py, mais c'est plutôt en programmant des spectacles d'artistes qu'il voulait suivre, il s'est rendu compte que les spectacles, plusieurs spectacles, abordaient des questions liées au genre. Il en a fait donc un fil rouge et il m'a proposé de réaliser ce feuilleton, faisant appel peut-être plus au côté militant de moi qu'au côté metteur en scène, car effectivement ça se joue en plein jour, loin de l'artifice du théâtre, loin de toute frontalité. On est dans une sorte de théâtre forum, de théâtre comme ça ouvert sur la place publique, où le sujet c'est les gens, le décor c'est les gens, les acteurs sont les gens et les spectateurs sont les gens.
Alors quand on parle de théâtre, David Bobet, on s'attend à entendre un texte. Quels sont les textes qu'on entend ? Sont-ils écrits ? Est-ce que c'est de la fiction ? S'agit-il de témoignages ? Est-ce que c'est un mix de tout ça ? Est-ce que tout ça est très prémédité ou est-ce que de temps en temps vous êtes vous-même surpris de voir quelles sont les paroles qui surgissent de ce rendez-vous quotidien ?
Alors d'abord, J'ai travaillé avec un sociologue qui s'appelle Arnaud Alessandrin parce que je voulais parler du réel, je voulais comprendre la réalité que de la vie des gens en fait. Et parce que lorsqu'on parle du genre, on arrive très vite aux questions d'inégalité, de discrimination, et je voulais comprendre la réalité de ces discriminations. Et puis Ronan Chesneau a écrit un texte porté avec Sophie Colleux, Gertie Dombouri, Rebecca Chaillon et d'autres. Et voilà, c'est un texte de théâtre, mais c'est peut-être plutôt un texte de parole qu'est réellement une fiction théâtrale avec des personnages ou une situation.
Ben, je vous propose d'en écouter un extrait qui a eu lieu il y a quelques jours, donc à Avignon, au Jardin Secano.
Je vous remercie hein, vraiment pour cette réponse. Les pavés d'or. Permettez-moi surtout de remercier ici la reconnaissance de la traîtrise au monde binaire patriarcal. Merci. Je suis aussi très ému, et sans doute comme vous d'ailleurs, de la fin proche de la soumission des femmes hein, par les hommes. C'est fini, messieurs les chasseurs. Voilà, vous êtes aux abois, les femmes, les proies. Se libère, me too. Mais je souffre. Peut-être comme vous, je souffre de ne pas savoir un espoir dans l'avenir. Dans la sphère publique, voilà, on fait bonne figure, on a tous le sourire. Mais dans la sphère privée, on est ravagé. Plus les religions, plus les moralistes, plus les pestes brunes s'immiscent dans nos vies, plus moi j'ai envie d'imaginer. Un voyage à la rencontre du troisième type, un peu voyage avec des extraterrestres, voilà, un truc un peu sympa, quoi. Il y aurait par exemple, voilà, ça me ferait vraiment plaisir. C'est genre, on pourrait leur mettre un Poutine, un Erdogan, un Trump, un Colomb, des politiques, des politiciens, des banquiers, des actionnaires, des patrons à caler au fond de la soucoupe, non ? Bon, non, ça va, hein, vous inquiétez pas. C'est mon rêve à moi, mais je pense que je le partage. En même temps, c'est vraiment moquer des extraterrestres. Et je pense qu'il faut leur rendre, et il faut qu'on fasse des excuses, parce que, je vais vous dire, dans les années 70, en 72, je suis né en 71, ça m'a marqué. La sonde Pioneer qui a été envoyée dans l'espace, qui maintenant est beaucoup trop loin pour qu'on puisse la rattraper, on n'a rien trouvé de mieux que de se moquer des aliens et de leur envoyer une image de notre espèce. Sharifa, tu veux bien montrer l'image de notre espèce que nous avons envoyée au monde entier, à l'intergalactique. Voilà, nous envoyer à plein d'espèces. Et vous pouvez remarquer, on va faire un zoom, hein, parce que là on voit peut-être pas très bien. On va faire le premier zoom. Alors premier zoom, voilà, qu'est-ce qu'on voit ? On voit en effet que l'homme est très bien dessiné, hein. On remarque bien le pénis, les gonades. Mais par contre, regardons le modèle féminin hein, qui n'est pas en train de dire bonjour, hein, qui attend sagement à côté de l'homme. On peut remarquer un détail supplémentaire. Apparemment, la femme n'a pas de sexe. Je vous l'annonce, donc en 1972, la femme n'avait pas de sexe et elle a donc été envoyée aux extraterrestres. D'après moi, c'est quand les extraterrestres vont arriver, ils vont être très déçus d'apprendre que nous avons, nous les femmes, un sexe et qu'il va falloir l'annoncer. Voilà, ça s'appelle une vulve.
Alors, un extrait donc de Mesdames, Messieurs et le reste du monde, tel qu'on a pu l'entendre, c'était vendredi dernier, donc au Jardin Secano à Avignon, avec une parodie d'une remise de prix, une parodie de cérémonie qui évoque bien sûr les Molières et qui là s'appelle les pavés. Alors David Bobet, ce côté volontairement satirique, ça se prête bien à votre intention théâtrale ?
Chaque épisode a un ton particulier. Chaque épisode entre dans les questions du genre sur un prisme particulier et appelle sa propre théâtralité. Là, en l'occurrence, ce jour-là, on voulait parler de la représentativité étrange des femmes dans la culture et au-delà, de façon intersectionnelle, des non-blancs, des racisés, des assignations dans la culture, dans la culture de France. Quelle est symboliquement la représentation que l'on met dans la tête des petits garçons, des petites filles, des habitants de France de nos semblables. Voilà. Et comment ça reconduit un certain système de domination ou de discrimination. Après, chaque jour, c'est particulier. Parce que la question du genre, en fait, c'est un outil politique, philosophique pour comprendre notre époque et nos contemporains, assez.
Et aussi, éventuellement, pour essayer de la changer, cette question du genre.
Oui, absolument. C'est un levier. C'est-à-dire, quand on parle du genre, on va parler des femmes, de la place des femmes dans le monde, dans l'humanité, de la spoliation, de l'invisibilisation des femmes dans l'histoire de l'humanité. On va parler des inégalités entre les hommes et les femmes aujourd'hui. Et c'est quand même, en 2018, c'est quand même hallucinant qu'on en soit encore là. Et on n'arrête pas de nous dire que c'est compliqué. Ce n'est pas compliqué. C'est une volonté très claire de domination et de privilège, de ne pas vouloir partager ce qui est considéré comme un privilège. Mais c'est pas, les femmes veulent pas prendre quoi que ce soit aux hommes. Simplement, elles ont une place normalement centrale, et il suffirait d'agrandir le centre. Mais on va parler aussi de la masculinité, qui pourrait peut-être être un petit peu plus créative. Les femmes, ça fait longtemps qu'elles sont en train d'inventer, de politiser ce que peut être la féminité et de faire avancer notre histoire. Les hommes, on est un peu lent, hein. On est un petit peu lent à penser les choses, à penser notre responsabilité. Virginie Despentes le dit très bien. Les violences faites aux femmes, le viol, c'est pas un problème de femmes. Elles en sont les victimes. C'est un problème d'hommes. C'est à nous de régler les choses. Et de façon intersectionnelle.
C'est un problème qui concerne les deux, on peut dire quand même.
Non, je crois pas. Non, je crois pas. Je crois qu'on peut parler de violence dans un endroit, mais à un endroit, la violence faite aux femmes.
Oui, je parlais c'est problème, c'est pas de violence. Ouais. Mais le problème concerne les hommes et les femmes. Ceux qui en sont les acteurs, oui, celles qui en sont les victimes.
Une femme qui subit des violences, on va pas lui mettre en plus la responsabilité de régler le problème de la masculinité.
On lui mettra pas la responsabilité de régler ce problème. Mmh. Mais le problème, bien sûr, concerne tout le monde. Bon, moi, j'y étais donc samedi dernier et j'ai vu Virginie Despentes. Mmh. J'ai entendu ce qu'elle disait. Justement, qui était l'auteur de ce texte? Est-ce que Virginie Despentes a mis sa patte là-dessus? Est-ce qu'elle l'a écrit? Est-ce qu'elle l'a repris? Est-ce qu'elle en a discuté? Comment se passe cet aller-retour entre vous et vos acteurs et vos actrices?
Voilà, c'était une carte blanche donnée à Virginie. Donc, il y avait toute une série d'autrices. Les noms sont sur le site du Festival d'Avignon. C'était un montage de texte qui mettait en lumière la littérature lesbienne. Et notamment la lesbienne butch. Quand on parle d'amour, souvent on pense homme et femme. Si on veut parler d'homosexualité, on va avoir une image tout de suite des gays. Parce que là aussi, les hommes peuvent prendre toute la place. Et puis si on parle d'amour lesbien, eh bien souvent on pense à ombre, à invisibilité, à intimité. Là, en plein soleil, la littérature lesbienne butch, c'était juste une fête absolument joyeuse.
Alors nous sommes dans la danse des mots, David Bobet, vous employez justement cette expression de lesbienne butch. Qu'est-ce que ça veut dire butch? D'abord, est-ce que vous savez depuis quand le mot est employé en français et à quoi renvoie-t-il?
Butch, c'est des femmes qui ont une apparence masculine, qui ont un genre qui tire vers le masculin. Et il y a aussi, c'est aussi lié quand même avec un mouvement politique qui pourrait venir aussi du white trash, c'est-à-dire des classes sociales plus défavorisées. Donc c'est aussi un outil politique. On l'a vu par exemple dans l'atelier Drag King où on drag kingait les spectatrices.
Qu'est-ce que vous entendez par là?
Drag king, c'est
le symétrique inverse de drag queen. Mais dites-nous exactement. Un petit peu, faites-nous le portrait, justement.
C'était très ludique, hein, c'était très participatif, où on apprenait aux femmes à se tenir, se penser, se comporter comme un homme, à pouvoir additionner des éléments de la masculinité, des moustaches, etc., etc., d'autres et autres types de prothèses. Et si politiquement c'est intéressant, c'est que si la masculinité peut s'acquérir, elle peut aussi, dans le sens inverse, se déconstruire.
Et c'est une école de déconstruction que vous proposez au public?
Ouais, je crois que c'est pas une école, parce que je suis pas là pour apprendre des choses aux gens, je suis là juste...
Un atelier,
sans
disons.
Doute, sans doute, peut-être pour mettre un miroir. Encore une fois, ce qui est très beau, c'est que c'est des gens de la société civile, des amateurs, qui sont là sur le plateau, qui parlent à des gens. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du miroir, c'est regardons-nous, regardons les systèmes dans lesquels on a grandi, et essayons de voir où sont les oppressions, s'il y a des discriminés, il y a forcément des privilégiés, et comment on peut commencer à agir dessus, puisque si on cherche l'ennemi, on sera forcément un petit peu dedans aussi, qui que l'on soit.
Alors vous avez mentionné Virginie Despentes, Béatrice Dalle aussi, il y a un certain nombre de personnalités, il y a des acteurs,
Stéphie Aménard, vous l'entendez tout à l'heure.
Oui, des actrices beaucoup moins connues. Vous disiez vous-même que vous aviez travaillé avec les étudiants d'une école de théâtre à Saint-Étienne. Comment avez-vous travaillé avec eux? Qu'est-ce que vous leur avez proposé?
En fait, je crois que ce que je leur demande, c'est d'être eux-mêmes. C'est pas vraiment, on n'est pas dans un théâtre qui nécessite un savoir-faire. Je pense que ce que je leur demande, c'est une compréhension et une pensée, une conscientisation du propos et d'être fier de porter ce propos-là. Et comme ils sont amateurs, il y a une fragilité qui donne beaucoup de douceur, de tendresse à un propos qui doit être courageux, qui doit se tenir de façon courageuse, parce que lutter contre l'homophobie, la transphobie, contre le sexisme, contre le classisme, contre le racisme, contre tous ces systèmes d'oppression, faut être costaud. Eh bien, leur fragilité donne beaucoup, beaucoup, beaucoup de puissance à ce propos et permet à l'auditoire de l'entendre, non pas de façon militante, mais plutôt d'une façon réflexive, comme un miroir.
Eh bien, merci beaucoup, David Bobet. Je rappelle que votre proposition, mesdames, messieurs et le reste du monde, se poursuit à Avignon, dans le Inn d'Avignon, jusqu'au 21 juillet, et que c'est tous les jours à midi et que c'est gratuit au Jardin Sécano. Bon, il est préférable d'arriver un petit peu en retard, parce que vous avez beaucoup de succès et les gens se pressent
en avance.
Oui, d'arriver un peu en avance pour ne pas justement être trop tard. Oui, vous avez raison de me rappeler ce faux pas, excusez-moi. Et maintenant, je vous propose d'inverser d'une certaine façon le miroir et d'écouter Nathalie Joly.
Je ne suis pas une énervée, je ne suis pas une compliquée. Je passe mes journées à m'étirer en douce. Mon plaisir, c'est de faire des ronds de fumée, de tabac blond qui s'envolent vers le plafond. Un monsieur s'occupe de moi, je le vois tous les 28 du mois. Il ne me donne aucun émoi pour cause. Il est tout chauve, un peu gnangnan. À part ça, n'est pas fatigant, ça va mon tempérament. J'ai aussi un autre monsieur, celui-là est un peu moins vieux, mais pour la chose il ne vaut guère mieux. Le pauvre paternel, il a fait le vœu de ne m'aimer que pour mes beaux yeux. À part ça, il me donne tout ce que je veux. J'en ai bien aussi un troisième qui habite en face juste au deuxième. Pour lui j'ai trouvé un système pratique. De sa fenêtre bien pliée, il m'envoie quelques gros billets pour me voir en déshabillé.
Un extrait du café Polisson, Nathalie Joly, que vous proposez donc tous les jours à 18h à l'espace Roseau de la rue Pietramal. Un spectacle donc où on parle de la chose. Je dis la chose parce que c'est le mot justement qu'on a entendu dans cette chanson, un mot d'époque. Et bien sûr, la chose fait penser aux mots. Alors, vous avez proposé un spectacle un petit peu semblable au musée d'Orsay, qui est le musée du 19e siècle à Paris, il y a quelque temps. Ça a beaucoup évolué. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est tout différent? Est-ce qu'il y a un tuilage entre les deux? Dites-nous un petit peu ce qu'on entend dans ce café Polisson.
Alors, c'est un spectacle qui m'a été commandé par le musée d'Orsay pour accompagner l'exposition Splendeur et misère, images de la prostitution. Et on a créé ce spectacle là-bas. C'est le même spectacle dans un espace juste un petit peu plus petit du Hof d'Avignon, pour parler d'une situation assez particulière, c'est-à-dire la position de l'artiste femme associée dans le café-concert à une prostituée. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, au Second Empire et à la Belle Époque, une porosité entre le monde du spectacle, du café-concert, du théâtre, et même des cafés et des restaurants, et le monde de la prostitution. Donc le spectacle s'articule autour de ça, avec des chansons à la fois très drôles et aussi très très touchantes, qui dénoncent...
Et très terribles de temps en temps.
Et terribles, puisqu'on est aussi dans le péril vénérien, la syphilis, enfin voilà, ça parle aussi de tout ça. Et c'est splendeur et misère, c'est-à-dire que la mise en scène de Jacques Verzier fait bien ressortir ce paradoxe, c'est-à-dire que les splendeurs de cette belle époque cachent toute la...
Oui, il y a plus de misère que de splendeur, c'est pas splendide pour tout le monde.
Et le... et la tristesse de ces femmes qui, pour s'en sortir, quel que soit l'échelon social, à cette époque-là, n'ont qu'une issue, c'est la prostitution. C'est ça qui est très intéressant, c'est toutes ces nuances, tous ces termes aussi, toute cette danse des mots autour des termes de prostituée, puisqu'il y a une infinité de vocabulaire pour désigner les prostituées,
alors
des courtisanes, augueuses.
Et ça, c'est tout à fait étonnant de voir le chapelet de ces noms qui désignent les prostituées chez les hommes et chez les femmes. Ce sont des mots qui sont prononcés par des hommes ou par des femmes, et il y en a infiniment. Alors
oui.
Les pierreuses, qu'est-ce qu'il y a d'autre ?
Il y a les pierreuses, les gueuses, les fleurs de trottoir, les soupeuses, les verseuses, les trotteuses. Voilà, il y a toute une infinité de vocabulaire, et pour une raison vraiment très précise, je dirais historique, c'est que en fonction des lois, le statut de la prostituée évolue. Donc elles sont en train d'arpenter la rue, donc c'est des pierreuses, et puis tout d'un coup elles sont dans des maisons de tolérance. Après on les fait racoler dans les restaurants, donc ça devient des soupeuses, etc. Et ça correspond à des termes bien particuliers. Les courtisanes, les cocottes sont beaucoup plus associées au monde du théâtre, mais c'est pas autre chose, c'est juste qu'elles sont peut-être un petit peu.
Elles ont plus d'argent en général.
Non, elles ont pas plus d'argent parce qu'elles
ont des particules, elles ont des belles toilettes, ce sont ce qu'on appelle les femmes entretenues.
Oui, mais pour payer leurs toilettes, elles se prostituent,
oui.
Et dans leur contrat de chanteuse ou d'artiste, elles sont censées finir la nuit avec le client si besoin. Heureusement, les contrats ont un petit peu évolué, c'est plus ça. Mais ça raconte beaucoup de choses sur les femmes et les hommes aussi aujourd'hui. C'est-à-dire que pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, David Bobet, là aussi, on a le public en miroir. C'est-à-dire que la scénographie de Jean-Jacques Gernol, qui a travaillé avec nous, peint sur le plateau le public. Sur des toiles, voilà, qui sont inspirées de toute l'exposition qu'il y avait au musée d'Orsay avec toutes ces figures de prostituées, les buveuses d'absinthe, tout cet aspect pictural de Degas, de Renoir, de Toulouse-Lautrec. On est vraiment dans cette ambiance-là, et je pense que l'histoire nous donne une référence, c'est-à-dire ça nous permet de mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui.
Alors, est-ce qu'il y a vraiment une compulsion, un désir de représenter tout cela ? Vous mentionnez Renoir avec, en effet, la goulue, les balles, vous mentionnez Toulouse-Lautrec, tout ce qu'on a dans la tête comme estampe, comme toile, mais aussi comme chanson, tout cela est très représenté. C'est-à-dire la façon dont la bourgeoisie, puisque c'est une période tout à fait particulière, quelques décennies après que Thiers a dit « enrichissez-vous », en effet, il y a toute une partie de la bourgeoisie française qui s'est enrichie, et quand on s'est enrichi, il y a une moralité publique, et en même temps, les hommes vont s'encanailler. Est-ce que tout ça se représente beaucoup ?
Dans le Café Polisson, oui, bien sûr, le public est très présent, c'est un cabaret, c'est-à-dire que c'est quand même très participatif aussi. Les hommes sont quand même pris à partie, et peut-être un peu mis à mal, mais d'une façon très drôle, et jamais, ils sont pas en difficulté. C'est-à-dire que c'est un cabaret qui est à la fois très chic, et ça permet de dire des choses extrêmement crues. Et ça, on y tenait beaucoup, parce que y a une liberté de parole à cette époque qui est extrêmement intéressante, qui est beaucoup plus libre que maintenant.
Oh, infiniment.
Et,
c'est incroyable à quel point on est libre.
Voilà. Et le spectacle aussi parle des tarifications. C'est-à-dire que le sujet du spectacle, c'est quand même le commerce. C'est-à-dire que la chair est un commerce. Et si on en parle, parlons-en. Donc on a des tarifs et on a tout un menu qui est égrené tout au long du spectacle, pour les clients. Et
Alors c'est l'époque des brasseries, c'est l'époque des comiques troupiers. On n'hésite pas à appeler les choses et à les nommer très souvent par leur nom, même si de temps en temps il y a évidemment une coquetterie à ne pas les nommer et à passer par derrière. Ces textes en général, alors je sais que vous vous êtes beaucoup intéressé à Yvette Guilbert qui a écrit un certain nombre de textes. Est-ce que c'était une exception ? Est-ce qu'en général, les textes sont des textes écrits par des hommes ?
Yvette Guilbert, elle était aussi autrice et compositrice, mais ça, je l'ai un petit peu mis en évidence dans ma trilogie, justement sur Yvette Guilbert, dont on retrouve quelques chansons au centre du spectacle, mais comme contrepoint, justement pour ne pas l'associer à une prostituée, puisque elle, par sa découverte du parler chanté, a libéré la parole des femmes, et c'est ça que je voulais garder comme un contrepoint. Donc c'est une exception, c'est-à-dire que c'est aussi dans ces cafés-concerts qu'on a l'apparition des diseuses, des premières diseuses qui tordent le mot et qui naviguent entre la musique et le chant et le texte comme le font les rappeurs, c'est-à-dire que c'est déjà une parole contestataire. Donc elle s'oppose à tout ça. Mais on y a aussi mêlé des chansons, je me suis inspirée aussi des chansons de salle de garde ou des chansons de Bruant ou des chansons plus tardives. Il y a par exemple il y a l'hymne homosexuel lesbien de Suzy Solidor, Ouvre, dont on a fait une bossa nova. Enfin voilà, il y a des choses assez différentes. On voulait des choses, des couleurs aussi différentes. Il y a aussi la présence du bandoneon qu'on a entendu tout à l'heure, parce que il y a aussi la traite des blanches entre Paris et Buenos Aires. Il y a toute cette circulation
qui m'intéressait. Mais oui, j'étais très étonné d'entendre un tango dans votre spectacle. Pourquoi justement avoir choisi un tango qui, quand même, est une musique qui est nettement postérieure à l'époque que vous évoquez, Nathalie Joly?
Parce que il y a cette circulation, il y a cette ce commerce des femmes, ces très jeunes filles. D'ailleurs, c'est une très jeune bandoneoniste.
Et je crois que c'est elle à un moment qui dit « J'ai 14 ans, profitez-en ».
Absolument. Et elle finit le spectacle aussi, c'est-à-dire que ça finit sur cette jeunesse qui s'efface, et c'est ça qui est à la fois terrible. Enfin, moi, je pleure tous les soirs en l'écoutant, parce que voilà, c'est ces jeunes filles qui se retrouvent à la fois embringué dans ce milieu de la prostitution, protégé aussi dans cette espèce de maison de bordel, puisque là nous on représente un univers de femmes, donc elles sont prises en charge, on leur enseigne la prostitution. Et en même temps, elles renoncent à leur jeunesse, et ça, c'est quelque chose de terrible. Et le bandoneon permet justement d'évoquer ce trafic entre entre Paris et Buenos Aires. Et
en même temps, que tout ça est tout à fait mis en coupe réglée. On voit bien que c'est presque institutionnel. Vous parliez tout à l'heure de tolérance et de ce qu'on appelait les maisons de tolérance. Si on les tolère, c'est bien qu'on le sait qu'elles existent et qu'il y a un certain nombre de règles qui sont instituées.
Oui, mais tout ça, encore une fois, ça a beaucoup évolué au cours du siècle, et tous les deux ans, il y avait des lois nouvelles. Nous, on s'est vraiment cantonné au monde du café-concert, du théâtre et à la prostitution qui circulait de la loge à la scène, au public, à la chambre et au cabinet noir derrière.
Et ces chansons étaient très connues, elles étaient très souvent interprétées. Où ça? Dans des brasseries, dans des cafés?
Au café-concert. C'était vraiment la grande époque du musical. Le début du musical, c'était vraiment la grande époque des cafés-concerts, du Moulin Rouge, de l'Alhambra, de tous ces théâtres. Donc il y a des chansons très connues comme Madame Arthur qu'on entend dans le spectacle, mais aussi des petites pépites inconnues qu'on a été chercher dans les fonds de tiroir, parce qu'on adore ça, et dont on a fait des arrangements un petit peu plus modernes, avec de la trompette, de la guitare, du bandoneon, du piano.
Alors bien sûr, Nathalie Joly, vous chantez ça avec votre voix, je ferais mieux peut-être de dire avec vos voix, parce qu'on entend plusieurs voix, vous avez évidemment une technique classique, en même temps vous avez entendu les chanteuses réalistes, il y a une oscillation entre ces divers timbres.
Oui, de toute façon, c'est bien avant la chanson réaliste. La chanson réaliste est plus tardive. Là, on est vraiment fin 19e, 1850 à 1930, puisqu'on a élargi un petit peu la palette. Mais voilà, oui, ça aussi, entre la couleur de l'opérette et la couleur et la gouaille, avec mes camarades, puisqu'on est cinq quand même sur le plateau,
oui,
je ne suis pas
sûr.
Toute seule.
On vous entend beaucoup, on en entend d'autres, et parfois même, on entend des hommes avec des chansons étonnantes qui, justement, jouent avec ce qu'on dit, ce qu'on ne dit pas, ce qu'on va faire comprendre, ce qu'on ne va pas faire comprendre. Il y a tout un art du calembour dont on peut être tout à fait charmé quand on va voir donc le Café Polisson en fin d'après-midi, tous les jours à 18h à l'Espace Roseau.
Fils du maire de mon pays, oui, 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 n'est pas le plus bête du canton, non, 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 non. Seuls les mauvaises langues, dit-on, prétendent qu'il a l'air d'un.
La danse des mots donc à Avignon depuis l'Hôtel de l'Europe. La danse des mots qui continuera jusqu'à la fin de la semaine à vous parler des spectacles d'Avignon. Une émission proposée par le réseau Canopé et par RFI. Lucie Bouteloup, Philippe Nadel, Véronique Durand, Yvan Amar.
Une petite monde aux yeux bleus. Il paraît même qu'aujourd'hui, oui, 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 sans qu'elle rougisse d'émotion, non, 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 à la lisière du village, il lui ravit son plus, ouvre la fenêtre pour respirer, son plus innocent aveu, elle lui dit c'est inouï, oui, 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 mais je crains ton abandon, non, non, non.